This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour, je m'appelle Alice Vaché et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de Elle Lozac. Salut.
Bonjour Alice. Ça va? Ravi d'être là.
Ah bah, je suis ravi de t'accueillir après cette longue marche, puisque c'est encore les grèves, hein. Donc, t'as pas trop galéré pour venir?
Ça va, on n'est pas très loin. En fait, les bureaux de Lozac sont à peu près à 5 minutes à pied. Donc, j'ai pas eu 2h30 de marche comme toi à faire.
Et 5 minutes,
très, très
je savais
quand
pas.
J'ai vu l'adresse.
C'est vrai que t'es en avance. J'ai dit pourtant que t'es en retard. Non, même pas. Écoute, avant de me parler d'Elle Lozac, yes, et de nous recontextualiser un peu, la start-up, moi, j'ai envie que tu me parles de toi, qui tu étais, élève, enfant, ce que tu veux en fait, ce que tu as envie de me raconter sur toi.
Bah écoute, moi j'ai une passion déjà pour la musique classique. Voilà, je fais du violon à côté. Je fais partie d'un orchestre depuis que je suis tout petit. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, comme on dit.
C'est bien et qu'on n'ait pas raconté ce qu'était Lozac, comme ça on va les laisser deviner.
Voilà,
ils vont clairement faire un lien.
Ça va être extrêmement facile. On revend des violons. Voilà, exactement. On fait des marges incroyables.
Ouais, ta mère, elle va encore plus brouiller les pistes.
Exactement.
Si tu lui dis ça.
Je lui enverrai pas le lien du podcast. Non, je fais de la musique classique depuis que je suis tout petit. C'est une sorte d'exutoire, quelque chose qui me permet de me ressourcer, de ressentir beaucoup de choses extrêmement agréables et en pratiquant aussi de manière collective, puisque je suis aussi quelqu'un de passionné par l'aspect collectif, passionné par la diversité. Je viens d'un milieu justement qui l'est pas vraiment, on va dire, et donc du coup c'est une recherche un peu permanente de rencontrer les autres, de ce qu'ils font, de leurs avis différents, qui est quelque chose qui a pas mal aussi été un driver dans mes différentes activités. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Timothée, mon associé, qui est du coup mon associé sur Elozac. On s'est rencontré lorsqu'on était à Berkeley, l'université de Berkeley en Californie. C'était fin 2015.
Et Californie.
Exactement.
C'est bien là-bas.
Ça fait rêver quand
c'est
comme ça. Même la façon de le dire. Californie.
C'est ça. Tu m'as dit Californie, ça y est, je voyage, quoi.
Voilà. On va parler du coup de Los Angeles, Santa Barbara. Rien à voir avec le sujet du jour, mais
c'est
pas grave.
On va changer de sujet. On va vous faire un peu voyager aujourd'hui.
Ouais, donc le festival du cinéma, par exemple. Lors d'un cursus, effectivement, d'entrepreneuriat là-bas, et on s'est trouvé une passion commune pour l'économie circulaire, donc quelque chose de très partagé, on va dire, par les jeunes générations. Et avec cette question sous-jacente.
C'était en quelle année, ça?
C'était en 2015.
2015.
Ça remonte pas à si longtemps que ça, mais on a l'impression que les années sont des dizaines d'années lorsqu'on monte une boîte, d'une
certaine
manière.
C'est vrai.
Et en fait, on a eu cette passion pour l'économie circulaire, mais une économie circulaire, réaliste, rentable, pour être sûr que justement le plus grand nombre puisse y avoir accès et que le plus grand nombre soit convaincu par ça. Puisque on est tous d'accord qu'il faut sauver la planète, qu'on consomme trop de plastique, que la voiture n'est pas potentiellement tenable sur un modèle diesel pendant des années d'années. Mais une fois qu'on a dit ça, on a besoin de manger, on a besoin de vivre, on a besoin d'utiliser des choses faciles, on a besoin de gagner de l'argent. Et donc du coup, c'est donner cette mission avec Timothée de créer des produits et des services qui font en sorte que l'économie circulaire devienne un peu le mode majoritaire d'échange et de consommation de notre société, que ça devienne quelque chose de crédible et pas un vœu un petit peu bobo
à Noël sur la
liste.
Ouais, non mais c'est vrai, hein. Avant c'était très ça, c'est très imagé ce que tu me dis, c'est vrai.
Mais là on le voit dans le milieu des marques que tout ce qui va être recyclé, tout ce qui va être bio, etc., est toujours extrêmement cher. Alors parfois il y a des réalités économiques, mais souvent c'est juste un point de vue marketing.
Les gens essaient de les rendre plus accessibles. On a eu Aurore Market qui essaie de casser les prix. Voilà, ça commence.
Mais vraiment, ça commence. En général, on parle de... Vous avez sûrement des potes qui ont lancé des boîtes qui, par exemple, effectivement, font ce qu'on appelle de l'upcycling sur des fringues. Donc, effectivement, refaire des jolies fringues à partir de chutes de vêtements ou autres. En général, le prix moyen de ces trucs-là, c'est complètement inabordable. Et donc, on finit chez CA ou chez H&M avec un t-shirt à 15 euros. Donc, c'est aussi la courbe de l'innovation. Vu qu'on est au début, c'est normal que ça soit très cher. Et plus grand nombre va l'utiliser, plus on pourra
faire
chuter les
prix. Tout à fait, plus il y aura de demande.
Exactement. Mais voilà, sinon je suis l'heureux papa d'une petite fille de 2 ans.
Bravo.
Qui effectivement me rend extrêmement heureux. Et puis voilà un petit peu pour la description et l'introduction.
Donc entrepreneur papa.
Exactement, voilà.
Et papa d'une boîte du coup dont tu vas nous parler du vrai business model qui n'est donc pas des violons en Californie.
Non. Je réécris l'histoire.
Voilà, réécris.
Elozac, en fait, le principe d'Elozac, c'est de garantir une seconde vie aux produits électroniques des particuliers. Donc globalement, on parle d'un principe assez simple, c'est que certaines marques mettent des prix extrêmement élevés sur leurs produits parce qu'ils ont réussi justement l'épreuve du marketing en faisant croire que ce produit nous est absolument indispensable. Évidemment, on pense à l'iPhone, mais on pense aussi, je sais pas, à des enceintes, on pense à d'autres marques de téléphones, on va penser à des appareils photos, ces produits-là qui coûtent extrêmement cher à l'achat, mais qu'on va acheter parce qu'on est convaincu, parce que les équipes marketing ont bien fait leur boulot, on est convaincu par l'usage, on est convaincu qu'on a absolument besoin. Le problème, c'est que ces produits-là, on parle souvent d'obsolescence programmée, ont des durées de vie, on a l'impression qu'elles sont assez courtes. En vrai, le produit peut encore vivre extrêmement longtemps. Le produit a encore de la valeur. On peut mesurer la dépréciation du prix de ces produits. Et nous, on est là pour très facilement permettre aux particuliers de revendre ces produits pour qu'ils soient ensuite soit réemployés directement par d'autres personnes, soit réparés, reconditionnés et réutilisés. C'est-à-dire d'allonger la durée de vie des produits en leur permettant de revenir sur tout simplement le marché économique.
Et quid de l'obsolescence programmée? On parlait notamment, d'ailleurs, vous étiez spécialisé au début sur les produits Apple.
Exactement.
On en parle beaucoup en tant que consommateur de l'obsolescence programmée d'Apple. Comment vous arriviez à la prolonger ou à la...
Déjà, il y a une obsolescence programmée qu'Apple ne maîtrise même pas, ils font même pas exprès, qui déjà, c'est le consommateur qui, de telle manière, se fouette et s'autoflagelle, qui est, j'ai le 7, le 8 sort, j'achète le 8, alors que le 7 marche très bien. Déjà, c'est même pas de l'obsolescence programmée, c'est de l'envie compulsive d'avoir toujours effectivement le dernier iPhone qui est sorti. Là où Apple est responsable, c'est effectivement quand on fait une mise à jour d'un logiciel, enfin du soft d'un iPhone, au bout d'un certain nombre d'années, ils vont finir par faire en sorte que la mise à jour éteigne le téléphone.
Moi,
le ralentisme.
Je l'ai fait plus. Bon, c'est ça, je ne dévoile donc pas la marque du portable que j'ai. Mais j'avais pris parti de plus les faire. Mais à un moment, t'es obligé, quoi. Ça se fait tout seul aussi quand tu le branches.
Et puis on reçoit 15 notifs qui empêchent tellement l'expérience utilisateur d'un iPhone que c'est absolument insupportable. Donc ça, là-dessus, malheureusement, on n'y peut rien. Moi, j'ai un petit peu un fantasme à ce niveau-là et j'avais demandé à Timothée, qui est un dieu du produit, de potentiellement me dire c'était faisable, de créer en fait une alternative à l'iOS, en fait, de créer un logiciel interne qui permet d'utiliser les iPhone 2, 3, 4, même les iPod autres, de continuer de les utiliser et de les revendre évidemment beaucoup moins cher. Sauf qu'en fait, Apple est propriétaire de beaucoup de choses dans un iPhone qui empêche complètement de faire ça. Mais par contre, l'iPhone 4, 3, 2, 1 en lui-même, qui ne vaut plus rien du coup sur le marché de la seconde main, nous on le récupère quand même pour pouvoir le recycler. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est pas notre métier premier, mais on fait en sorte que ces produits-là soient quand même récupérés pour finir pas dans des décharges, mais dans des filières de recyclage responsables.
Et pourquoi vous étiez spécialisé sur Apple justement au début pour le parce que c'était un gros marché ou parce que justement il y avait plus de techniques, que c'était plus compliqué
Alors en fait, au tout début, lorsqu'on était à Berkeley, l'idée c'était de permettre à n'importe quel type de produit et pas seulement électronique d'avoir une seconde vie. On allait voir les gens autour de l'université avec un carton et leur disait mettez tout ce que vous voulez dedans, on s'en occupe.
Tu me fais penser à Guillaume Gibault, pardon, qui envoyait ses slips à la main. Tout le monde commence sur le terrain, hein, comme quoi, tu vois.
On a commencé sur le terrain. Je sais pas si on a récupéré des slips, des slips français à Berkeley, c'est assez énorme.
Ah, c'est très sympa, ça, comme anecdote.
Je verrai, je vais pas l'inventer, ça. C'est un truc un petit peu marketing pour, est-ce que le slip français est arrivé de cette manière-là jusqu'à SF. Mais en tout cas, on avait plein de types de produits et lorsqu'on est très peu, on peut pas trouver le bon prix, prendre les photos, revendre que des produits sur lesquels on n'est absolument pas spécialisé. Donc on a choisi de se focus, tout simplement, faire en sorte effectivement d'apprendre notre métier et de construire un service sur un type de produit. Et il se trouve que les produits Apple, c'était un petit peu la marque parfaite pour justement expérimenter ça, puisque bah, prix extrêmement cher à l'achat, une valeur qui se déprécie du produit qui est mesurable, on peut créer un process de vérification du produit et tout. Donc on a fait ça et c'est là où ça a commencé à très bien marcher. Et maintenant on a eu la démarche inverse de réouvrir le catalogue vers tous les produits électroniques qui ont encore de cette valeur, pour que bah, le client, en fait, le particulier, fasse de l'économie circulaire parce que c'est simple et parce que ça lui rapporte de l'argent. Et parce que c'est bon pour la planète, mais malheureusement, c'est pas ça qui suffira à faire switcher les comportements.
Moi, justement, tu vois, à l'inverse de toi, je me serais dit, ben, le consommateur Apple, c'est le mec qui en a rien à foutre de la planète et qui va pas faire qui va pas vouloir reconditionner son portable.
Bah, effectivement, c'est ce qu'on pourrait penser au premier abord, mais
et en fait mon mobile qui est à côté, c'est vrai. Je suis le bon contre-exemple.
J'en ai un aussi, ce qui est extrêmement intéressant avec Apple, c'est que en fait, ils ont c'est évidemment les dieux du produit, ils ont une expérience utilisateur exceptionnelle sur tout ce qu'ils ont créé, que ce soit de l'iPhone ou même l'AirPod qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires.
C'est de la tech for good en fait.
J'irai pas jusque là, mais en fait, on peut être entre guillemets on peut avoir une volonté écologique, une volonté de responsabilité par rapport à la planète, tout en ayant incroyablement envie d'avoir les derniers outils technologiques.
Bien sûr.
Et en fait, ça, c'est la majorité. C'est-à-dire que la majorité, c'est ni les connards qui en ont rien à faire, et c'est ni les gens, d'une certaine manière, qui sont écolos à 100% et qui sont en zéro déchet, par exemple, chez eux, qui est une infime minorité de la population, parce que c'est juste invivable, en soi.
Essayé une journée, c'est infaisable. En vrai. Hein.
Moi, j'ai un très bon ami qui l'est, avec sa famille et 4 enfants, mais...
Il l'est vraiment? Ouais. Avec des enfants, en plus?
Mais il vit en...
Couches réutilisables et tout?
Il a commencé alors que les enfants n'avaient plus besoin, donc c'est un peu de la triche. Mais mais par contre, il vit en Normandie, pas loin d'une ferme. Ça joue beaucoup. D'accord. Il a beaucoup de surface, compost plus facile. Par contre, il y a plein de choses très complexes. Il fait sa lessive lui-même, il fait son beurre lui-même. Enfin,
c'est vraiment des extrêmes minorités.
Exactement. Par contre, il y a des petits changements faciles, mais vraiment très très faciles à faire dans sa vie de tous les jours, qui permettent de réduire drastiquement déjà son empreinte. Carbone, son empreinte plastique, etc. Et c'est déjà un très bon début. C'est-à-dire qu'en gros, on se rend compte que pour vraiment améliorer les choses d'un point de vue global, il suffit que chaque personne fasse des petits gestes. L'exemple hyper bête, nous on a fait ça au bureau avec tous les collaborateurs qui sont tous engagés dans l'économie circulaire. C'est pas juste un délire des cofondateurs. À chaque fois qu'on va déjeuner le midi, qu'on va prendre de la nourriture à emporter, c'est complètement simple de prendre un sac réutilisable et pas de systématiquement demander un sac. Ça paraît idiot, dans le sentier, je sais plus comment être start-upper tous les midis, mais ça a un impact très rapidement, hyper important, et ça ne change pas le confort de vie. On n'est pas dans le zéro déchet. Pareil, si vous êtes dans une entreprise, vous avez sûrement la possibilité d'acheter des couverts réutilisables lavables au lieu de systématiquement prendre des chambres. Voilà. C'est que des choses comme ça qui ne changent pas, en fait, le quotidien, le confort de vie, mais qui permet, puisque si tout le monde le fait, effectivement, il y aura cet effet de masse qui permet vraiment de changer les choses. Voilà. Parce que
tiens, ça m'intéresse d'ailleurs. Quels sont les engagements au-delà du business model de Lozac, ouais, qui est quand même complètement éco-responsable. Quels sont les engagements du coup de Lozac au quotidien? Et toi, d'ailleurs, j'ai vu d'autres engagements dont tu vas me parler. Voilà, j'ai envie de savoir un petit peu tout ça.
Alors donc il y a les deux que je viens d'évoquer. Il y a l'idée de travailler uniquement sur des produits reconditionnés. Bon là, forcément, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon ça serait un petit peu scandaleux. Mais du coup, on n'achète pas de neuf. C'est vrai aussi pour le mobilier. On utilise des.
Il y a aucune pièce neuve. Aucune pièce neuve.
C'est que les produits qu'on a rachetés à des particuliers ou des produits qui ont été réparés. C'est exactement les mêmes produits, ça fonctionne hyper bien. Rachetés soit via elozac.fr, soit achetés sur des boîtes comme Back Market, dont on pourra parler, etc., qui effectivement permettent d'utiliser des produits neufs. Il faut savoir, il y a une stat qui est hallucinante, qui est que le bilan carbone d'un produit électronique est lié à 75% à sa fabrication, à l'extraction des matières premières. En fait, à chaque fois qu'on réutilise, enfin qu'on achète un produit neuf, le bilan carbone global, c'est 75% lié à l'extraction des matières premières. Donc ça veut dire que plus on le réutilise, plus on, quelque part, on permet de rentabiliser cette extraction qui est écologiquement.
Donc on pourrait presque avoir une empreinte carbone zéro si on...
Alors, en tout cas, la réduire énormément en passant son temps à réutiliser des choses qui ont déjà été, qui ont déjà pollué une fois, entre guillemets. L'autre stat qui est délirante, c'est que t'as 23 kilos de produits électroniques, de déchets électroniques par personne et par, enfin, par français chaque année. Ce qui est énorme et surtout, toujours important de voir la progression dans le temps, c'est 6 kilos de plus qu'il y a 5 ans. Donc, en fait, ça augmente extrêmement rapidement et l'obsolescence programmée est évidemment responsable de ça puisqu'on passe son temps à changer en permanence. Donc il y a vraiment ça.
Non, moi je lui garde plus de 4 ans les miens. Bon. Tu sais, je suis soigneuse, hein, même si.
T'es une bonne élève, t'es ouais, une très bonne élève. L'autre chose sur laquelle effectivement on travaille beaucoup, c'est que aujourd'hui tout ce qui va être économie circulaire, même si on l'entend de plus en plus, ça reste un sujet assez barbare et un sujet qui est pas grand public. C'est quelque chose oui j'en ai entendu parler, je sais pas exactement ce que c'est, voilà.
Un peu comme la blockchain pendant un moment, les gens voient, visualisent, mais alors pour en parler concrètement, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais la différence avec l'avantage de la blockchain, c'est que les gens savaient absolument pas ce que c'était, moi le premier, mais par contre il y a un côté, on perçoit le potentiel business, ça va rapporter des milliards, quoi.
Alors qu'économie circulaire, tu te dis où là?
Économie circulaire, ça reste encore le truc de, voilà, très économie sociale et solidaire qui va pas rapporter d'argent. C'est cool, bah, il y a quelques associations qui vont s'en occuper, qui vont faire le bien à ma place.
T'as l'impression que c'est un pendant associatif, plutôt.
Exactement. Et moi, pourquoi on est allé là-dedans aussi, ce qui m'intéresse énormément, c'est que ça réconcilie dans ma personnalité le côté, business, vraiment ambition, construire une société, construire une entreprise qui va recruter des gens, qui va avoir une croissance, qui va faire du chiffre d'affaires, trouver les bons leviers de croissance, et de l'autre côté, au cœur du modèle économique, cet impact effectivement de réemployer effectivement des produits déjà utilisés, de réduire le bilan carbone à la fois des personnes qui utilisent notre service et de l'activité au sens général. Et donc c'est ces deux choses parallèles qui sont enfin conciliables dans une activité qui nous ont poussé à lancer Ilozac. Et ça, c'est quand même assez rare.
Et tu me parlais de back market. Du coup, c'est pas des concurrents pour toi?
C'est pas des concurrents. Ils font un petit peu de reprise, effectivement, de produits électroniques. Mais avant tout, back market, vous pouvez, en tant que particulier, acheter sur back market. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un nouvel iPhone. Au lieu d'acheter du neuf chez Apple, allez sur back market, ou d'un iPhone ou de Samsung ou pas mal de produits hauts. D'ailleurs, je m'encourage à fond à aller sur back market pour acheter un produit qui, du coup, aura été réparé, reconditionné, qui a du coup est déjà été qui a une seconde vie. Donc nous on est plutôt complémentaires de back market. Pendant quelques temps d'ailleurs on a beaucoup vendu des produits qu'on sourçait auprès de particuliers sur back market. Donc non, ça fait partie de ce bel écosystème.
Et t'as d'ailleurs beaucoup de concurrents non, finalement, comme on est sur de l'économie circulaire, on essaye que beaucoup d'acteurs puissent faire un peu la même chose. Mais est-ce que tu vois d'autres startups qui émergent un peu là-dessus ou pas?
Il y a quelques... Alors, dans le secteur global du reconditionnement, il y a pas mal de métiers différents. Il y a de plus en plus de boîtes. On peut citer, par exemple, des très beaux groupes industriels français qui sont partenaires des Lozac, puisqu'on les fournit en produits, qui emploient beaucoup de gens sur notre territoire.
Donc, en B2B, finalement, vous fournissez aussi des entreprises...
Voilà, en fait, on permet à des particuliers de revendre leurs produits, et ces produits vont être réparés par des industriels français. Donc, ça crée du l'emploi sur notre territoire.
Et parfois, il y a de la demande aussi d'entreprise, de reconditionnement.
Mais nous, on vend pas. En fait, on va pas revendre à une entreprise. Par contre, il y a des entreprises, effectivement, qui nous vendent leur parc. On a effectivement un commercial B2B, Samy, qui travaille sur ce sujet pour permettre aux entreprises de faire la même belle action.
Samy, si tu nous entends.
Samy, si il nous entendra, on enverra le lien. Qui permet effectivement à des entreprises de revendre leur parc de téléphone, d'ordinateur, pour avoir un gain économique, et puis derrière de racheter du reconditionné. En général, on leur conseille de racheter du reconditionné, puisque ça permet aussi de baisser les coûts. Ouais. Donc il y a ces industriels qui réparent, qui ont des usines, donc c'est un métier différent, ça immobilise beaucoup de capitaux, etc. Et parfois c'est pas simple, on en reparlera après, mais d'où la nécessité un petit peu de faciliter la vie de ce secteur par le législatif. Il y a des sociétés qui permettent de vendre des produits, donc comme Back Market, il y en a quelques autres comme Certideal avec qui on travaille aussi. Mais des services qui permettent de revendre son produit et de faciliter la vie sur la partie revente pour les particuliers, il y en a très peu. Il y a une boîte allemande qui s'appelle Rebuy. Beaucoup de gens connaissent aussi des réseaux physiques qui s'appellent EasyCash. Vous rentrez dans un EasyCash qui est un magasin, en fait, on vous dira bah ça vaut 15 euros, et vous êtes payé 15 euros directement. Mais la facilitation de tout le process, donc nous, vous allez sur elozac.fr, vous décrivez rapidement votre produit et après vous en fait vous choisissez un prix. On vous aide à choisir un prix pour votre produit. On vous garantit qu'on vous paye ce prix sous 30 jours. Vous avez l'opportunité, si vous êtes à Paris en région parisienne, de booker un coursier qui vient chez vous directement. Vous envoyez votre colis par la poste ou vous envoyez par votre colis par la poste et bientôt vous pouvez déposer dans un relais colis. C'est vraiment faciliter au maximum cette expérience pour que ça devienne hyper naturel, ça devienne un usage super simple et que vous le faites dès que vous avez un peu le temps pour récupérer à la fois de l'argent de ce produit-là et pour effectivement faire du bien à la planète. Et vous êtes payé sous 30 jours le prix qu'on avait convenu. Donc pas beaucoup de concurrents. Il y a un gros marché. Logiquement, on souhaite tous pas mal s'accélérer puisque plus il y a de l'achat reconditionné, plus il y a besoin de produits pour être réparé et pour être vendu derrière. Et on souhaite tous, c'est vraiment l'émergence en Europe en particulier de ce secteur-là qui est bénéfique de tout point de vue.
Tu me parlais du côté législatif, mm-hmm. J'aimerais bien que tu m'en parles plus d'ailleurs, parce que tu nous as fait un beau teasing, on en parlera tout à l'heure, ouais d'accord, mais je veux savoir maintenant.
C'est maintenant. quand on est sur une startup, on a beaucoup de sujets très business, très opérationnel, on a rarement le temps de s'occuper de ces choses-là, mais pour nous ça a été assez important dans le cadre du projet de loi anti-gaspillage, économie circulaire porté par la secrétaire d'État Brune Poirson au ministère de l'écologie. L'idée c'est vraiment comment on peut faire en sorte, du coup, par la loi, par la mise en place de règles, de faire en sorte que qu'on gaspille moins, tout simplement, que ce soit les particuliers ou que ce soit les entreprises. Il y a des exemples assez hallucinants. Il y a par exemple un acteur de la construction, un acteur français de la construction, qui, parce qu'il y a des réglementations extrêmement complexes sur le déchet lié au bâtiment, m'a partagé qu'il n'y a que 3% des déchets liés à la destruction des bâtiments qui sont recyclés chaque année. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas une volonté de l'acteur de s'en occuper, c'est uniquement parce que on peut pas recycler tel déchet parce qu'en fait il est trop dangereux, donc on peut pas le récupérer, etc. Donc c'est vraiment la réglementation, c'est un exemple qui montre que la réglementation peut empêcher à ce secteur-là d'émerger et qui peut empêcher tout simplement la réduction du gaspillage. Nous, on s'est concentré, parce qu'il faut se concentrer sur quelque chose pour être efficace, sur le secteur de l'électronique, de la réparation, du reconditionnement. Et on a poussé plusieurs choses, on a fait des propositions tout simplement d'amendements, accompagné par un avocat expert qui s'appelle Émile Meunier, qui travaille beaucoup sur ce sujet depuis longtemps. Et dans les amendements, par exemple, qu'on a proposés, et on allait voir pas mal de députés pour partager ces idées-là, il va y avoir la définition du reconditionné, puisque pour illustrer à quoi ça sert concrètement, parce que souvent on est un peu en mode décorrélé de à quoi sert, ce texte il a l'air sympa, mais qu'est-ce que ça change au quotidien? Aujourd'hui, si vous achetez un produit reconditionné sur une marketplace et qu'il fonctionne mal, vous allez vous dire, le reconditionné c'est pourri, j'ai essayé de faire un geste écolo, mais en fait c'est nul, donc du coup maintenant je n'achèterai plus que du neuf. Et pourquoi potentiellement vous avez acheté un produit pourri? Parce que le reconditionné aujourd'hui n'est pas un terme légalement défini. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Donc toi Alice, si t'as envie de commencer à faire du business d'iPhone reconditionné, tu peux sourcer 15 iPhones qui sont pas vraiment des iPhones en Chine, les revendre sur une marketplace en disant promis, Alice Vacher Corporation, c'est du reconditionné. Alice & Co, c'est du reconditionné. Et une fois qu'on a dit ça...
Le comptable sera ravi.
Exactement, ça peut être très pratique très très pratique à gérer. Ça fait des petites lignes de chiffre d'affaires supplémentaires, mais c'est un peu complexe à gérer.
Christophe, si tu m'entends, je lui enverrai le podcast lui aussi.
Et donc là, ce qu'on a proposé, c'est de définir vraiment dans la loi ce que ça veut dire pour en fait avoir un avantage compétitif pour ceux qui font bien leur métier, en particulier sur notre territoire. Toutes ces usines qui vraiment emploient les gens sur le territoire, font bien leur métier de réparation, changent la batterie, sortent des produits nickel en fin de chaîne, qui sont vraiment des produits reconditionnés, puissent être favorisés, c'est-à-dire puissent avoir vraiment le droit d'utiliser la notion de reconditionné. On a aussi fait partie d'un comité qui va définir ce qu'on appelle un indice de réparabilité. Donc par exemple, si vous achetez si on achète un lave-vaisselle, il y aura le prix de aujourd'hui il y a le prix, et demain il y aura aussi à côté un indice qui dit que cette lave-vaisselle, s'il fonctionne plus, il est facilement réparable. Typiquement pour empêcher l'obsolescence programmée, puisqu'il y a des constructeurs qui font en sorte que les produits ne soient pas réparables pour que vous achetiez en permanence le produit neuf derrière. Donc c'est une petite chose aussi qui peut permettre de faire, encore une fois, évoluer la majeure partie des consommateurs. Chose beaucoup plus compliquée, on n'avait pas beaucoup d'espoir dessus, mais on l'a tenté quand même, une TVA réduite sur la réparation, une TVA réduite sur les produits reconditionnés. Si c'est moins cher, beaucoup plus de gens l'achètent. Le problème, c'est que plein de complexités liées à une directive de Bruxelles sur le fait que, en gros, l'État français fait pas ce qu'il veut sur la TVA. Et puis, il y a un aspect très dubitatif sur le fait que baisser la TVA encourage un secteur, parce que ça n'a pas marché sur la restauration, par exemple. Donc, c'est des choses qui peuvent être complexes. Puis, la dernière chose qu'on a beaucoup poussée, On le voit avec le Green New Deal d'Ursula von der Leyen avec la Commission européenne, c'est que je suis pas sûr que les Américains et les Chinois ou d'autres puissances rêvent de nous concurrencer sur l'économie circulaire. Et donc, c'est peut-être un boulevard pour moi, pour l'Europe, d'être en avance sur un sujet au lieu de vouloir en permanence rattraper sur le digital, la tech, la blockchain, machin, ceux qui ont déjà 40 ans d'avance et qui investissent beaucoup plus. Donc, comment on peut faire en sorte, j'ai cette petite phrase un peu provocante, mais que j'aime, enfin, qui est assez révélatrice pour moi, qui est de dire pourquoi l'Europe ne deviendrait pas l'usine à déchets du monde. Il y a eu ce scandale qui fait que on envoie nos déchets vers d'autres pays, avec ce qui s'est passé en Indonésie, par exemple. Au lieu de faire ça, pourquoi on n'investirait pas massivement dans la recherche, dans le recyclage, dans la recherche, dans voilà l'upcycling, comment utiliser, je sais pas, dans le textile, faire de la bonne fibre recyclée, pour faire en sorte qu'on fasse payer les pays étrangers pour qu'ils nous donnent leurs produits, qu'on les traite, soit qu'on les revoie, soit qu'on fasse quelque chose de positif avec. Et donc effectivement, un exemple concret de ça, c'est que nous, on encourage la création de vraiment de vraies filières de formation à la réparation de produits électroniques en France, puisque ça va susciter dans les années à venir, on l'espère, beaucoup de recrutement. Beaucoup de potentialités d'embauche et qu'il faut prendre vraiment de l'avance là-dessus, puisqu'on a observé dans le cadre des Lozac au tout début, on faisait aussi de la réparation, qu'on avait du mal à recruter ce type de profil. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 40 ans d'études, il y a juste besoin de se former très précisément à ces métiers-là, à ces métiers qui ont à haute forte valeur ajoutée, qui peuvent permettre de sauver des milliers de produits électroniques. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. Il y a l'amendement sur reconditionné qui est passé, qui s'appelle d'ailleurs Elozac, très content.
Génial.
Surtout ça va. Surtout, je pense que ça peut vraiment faire bouger les choses. Maintenant, il faut le travailler. Mais
tiens, d'ailleurs, j'ai une question.
Yes.
Comme ça. Pourquoi Elozac?
C'est
un ami?
C'est assez drôle parce que on n'a pas du tout choisi par un ami, mais on a un ami qui s'appelle Zachary avec Timothée qui est persuadé que c'est,
que c'est lui,
ce qui est extrêmement drôle depuis le début. C'est un de nos meilleurs copains. Qui est adorable et qui du coup fait la blague assez souvent. Et on est assez partant de partager ces blagues en général. Non, en fait, on voulait une sorte de personnage qui inspire confiance. Et on était aux États-Unis, on voulait que ça marche en Europe. Donc c'était Zach, qui peut être un petit personnage. Et Hello Zach, parce que Zach.com à l'époque n'était pas disponible. Il y a un mec qui a essayé de nous le revendre, genre $15,000, un truc dans le genre, alors qu'on était étudiants. Parce que c'est un vrai business d'acheter et revendre des sites internet pour ceux qui savent pas quoi faire. Et du coup, on a eu Elozac.fr. Pendant un certain temps, on s'appelait Zach tout court. Mais du coup, les gens disent, mais c'est Zach, mais vous êtes Elozac ou Zach. Et donc, du coup, on a fait plus simple. Elozac.
Donc, contrainte d'un URL.
Contrainte d'un URL. Là, on est en train de vraiment réfléchir, effectivement, pour réinstaller un petit peu notre marque à repartir sur justement cette idée de personnalisation, courant 2020 avec une campagne de communication.
J'allais justement te demander, tu vois, tu me devances dans mes questions.
Pardon, c'est pas bien.
Tu connais trop bien l'exercice. Non, mais justement, j'allais te demander quelles sont tes perspectives là en 2020. Donc là, c'est vraiment réinstaller l'image.
Exactement. On est une petite entreprise, hein. On est 20 salariés, ça reste.
Qui a été fondé quand, du coup?
En mai 2016.
Mai 2016.
On est passé par l'accélérateur du Numa, qui ne fait plus de start-up. Et ça, c'était en début 2016. On a créé la structure juridique en mai 2007. Donc on est une vingtaine de salariés, on est une marque pas du tout connue du grand public, c'est une marque de niche. Et alors qu'on est persuadé que si on fait bien notre boulot, c'est quelque chose qui peut intéresser plutôt en mass market. On s'est rendu compte que pendant 3 ans, on a fait beaucoup de tests, on a beaucoup fait évoluer le produit, on fait pas mal de choses pour essayer de simplifier au maximum la vie du consommateur. Maintenant qu'on a un modèle pérennisé, en 2020, on va vraiment chercher à installer cette marque pour que tout le monde sache précisément ce qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, voilà, on était sur Europe 1 lundi, et effectivement, je dois réexpliquer au tout début, ce qui est normal, exactement ce qu'on fait, parce que même, ça veut dire qu'on a mal fait notre boulot sur la communication, sur...
En voilà, même temps, vous avez réorienté votre produit, puisque vous étiez que sur du Apple pendant un moment, donc là, c'est peut-être le moment aussi...
Le fait de réorienter, sachant que l'univers Apple enferme pas mal, c'est juste quand on est dans l'opérationnel, on est persuadé qu'en changeant un truc, tout le monde est au courant le lendemain, et effectivement, c'est pas comme ça que ça marche.
Des pommes aux fraises et aux abricots. Quoi.
Exactement. On pourrait faire un truc là-dessus aussi.
On pourrait faire un truc de saison, tu sais.
Revendez votre iPhone en janvier, votre Dyson, votre aspirateur Dyson en février, et puis ainsi de suite. Donc, en 2020, on va réinstaller la marque avec une campagne de communication vraiment pour faire en sorte de vraiment partager nos propositions de valeur au plus grand nombre. On est en train de travailler là-dessus. On a ouvert la Belgique quand même l'année dernière. Belgique francophone, c'est plus simple. Où ça fonctionne pas mal. Et l'idée, c'est vraiment en 2020 de s'installer sur le marché français, devenir vraiment l'acteur de référence de la garantie, enfin, qui permet aux particuliers de garantir une seconde vie à leurs produits. Le leader de la revente des produits électroniques de seconde main. Et c'est déjà un objectif largement assez ambitieux pour 2020. Donc voilà un petit peu quelles sont les perspectives.
Super. Est-ce que tu as des choses à ajouter?
Merci beaucoup à nouveau pour
merci
pour l'invitation.
À toi, c'était passionnant vraiment.
Bah merci beaucoup.
Et j'ai reconditionné du coup mon petit bébé puisque on n'a pas dévoilé la marque de la pomme.
Non,
mais
personne n'a compris.
Personne n'a compris, je pense, hein, je suppose. Merci d'être venu. Même si tu es qu'à 5 minutes, voilà, quand même, tu as fait le déplacement.
Merci beaucoup, Alice.
Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. N'hésitez pas à partager, liker et commenter le podcast sur Deezer, Bababam ou Spotify ou toutes les autres applications de podcast. N'hésitez pas aussi à me recommander des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.